Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine qui essaye de penser, qui empêche de penser, de polluer et de réchauffer en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Ludovic Asselot et Basile Bocquière à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. Et bien c'est toujours Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Allez, un petit coup de nature, une petite humeur, parce qu'on est bien d'accord avec cette histoire de retraite à 60 ans. Eh ben, ça ne peut plus durer. Oui, fini les plans sur la comète, les carrières, métro, boulot, dodo. Adieu les 25 plus belles années, les 160 et quelques trimestres, les batailles de chiffres. Parce qu'au bout du compte, comme le résumait assez bien Jean Cocteau, 30 ans après ma mort, je me retirerai fortune faite. Alors la solution, on l'a compris, c'est pas la retraite aux enchères. 60, 63 ans, qui dit vieux? 65, oui, 70 ans, qui dit plus vieux encore? La solution, c'est la retraite à 19h. Alors je vous explique. Pas besoin de camping-car ni de billets d'avion, pas besoin de faire des kilomètres dans les bouchons pour retrouver une des 341 plages de l'Hexagone qui ont remporté cette année un petit pavillon bleu. D'autres se contenteront malheureusement des marées d'algues vertes. Pour la retraite à 19h, donc, on se pose, on se met au sens premier du terme en retrait de l'agitation du monde, version journal télévisé, on fait une croix sur les 3800 puits de pétrole dans le golfe du Mexique, les tarifs du gaz qui flambent et la Commission européenne qui fait un peu marche arrière sur les réductions d'émissions de CO2. Bon, on oublie tout ça, on ouvre la fenêtre et on se penche au balcon, on pousse éventuellement jusqu'au parc ou au jardin du coin et on se branche sur le prime time de la nature. Ça s'appelle les longues soirées de printemps et d'été. Et ça commence là, cette fois-ci, dans votre quartier. Tenez, regardez. Sur le muret encore chaud, le lézard ferme la boutique et s'en va se coucher. Dans la haie d'à côté, l'abeille butine une dernière fleur pour la route. L'araignée nettoie sa toile, taguée par une bande de moustiques. Là-haut, une bande de martinets fait son grand cirque d'été. Et le soleil couchant a les reflets dorés des cendres volcaniques. Voilà. La retraite à 19h, on l'a compris. C'est quand on se reconnecte à la nature, celle-ci qui s'invite parmi nous, à la campagne, à la ville, la nature qui tisse sa trame verte et bleue à travers une France championne d'Europe des autoroutes et du bloc béton, les animaux, les plantes qui voyagent par les fleuves, les rivières, qui reconquièrent doucement les friches industrielles, les voies ferrées. Alors c'est aussi la petite ceinture autour de Paris, c'est le hérisson au coin de la rue, le bananier dans le sud, dans le jardin du voisin, ou bien le castor là-bas sur la berge du Rhône. La preuve de cet appétit nature fonctionne bien, ce sont les ventes de printemps ces dernières années, c'est le mobilier de jardin qui est en tête. Bon, évidemment un petit peu en tech quand même, et partout en ville, eh bien, on s'aménage des oasis urbains, des petits coins de chlorophylle. Alors c'est d'accord, cette histoire de retraite, on l'oublie un tout petit peu, le spectacle du monde, le vrai, est là, et ça commence aujourd'hui. Avec un thème tout à fait intéressant aujourd'hui, j'ai sous les yeux un ouvrage qui s'appelle « La fabrique de nos peurs ». Il est signé Frédéric Danhé. Frédéric Danhé est à la fois auteur, il a eu un DESS en ingénierie de l'environnement. C'est l'auteur de l'Atlas du changement climatique. On en est à la troisième réédition. Mieux vaut compter sur les rééditions que sur la réédition de ce changement d'ailleurs climatique. Il a aussi écrit « Quelle France en 2030 ?», qui est un bouquin qui prend le risque vraiment de la prospective. Vous avez reçu d'ailleurs plusieurs fois à cette occasion. Frédéric Danhé, bonjour.
Bonjour, David.
Et alors ce thème est très intéressant, la fabrique de nos peurs. Ça ne va pas être le énième bouquin avec, on va dire, des millénaristes sur leur colline qui sont là pour nous faire peur. On se rend compte que malheureusement, cette peur est une valeur sûre. On a peur du voisin, de la précarité, de perdre son boulot, de rater son couple, etc. On a aussi peur, malheureusement, de la science, de l'environnement, de la chimie, des OGM. Qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers ce livre?
Essayer d'expliquer que même si on a de bonnes raisons d'avoir peur de ce que notre société à coucher comme savoir et comme technique, l'expression de nos peurs est sans commune mesure très souvent avec la réalité et qu'en tout cas elle est très révélatrice de cette société d'entre-deux dans laquelle nous sommes, qui doute de tout, qui vit dans le sécuritaire, qui vit dans la peur, oui, qui a besoin de se créer des peurs pour tenter de se reconstituer un semblant de cohésion sociale, dirigé par des gouvernements qui, depuis 20 à 30 ans, font peur avec la peur, hein, c'est devenu une doctrine politique. Et dans cet entre-deux où on ne sait pas où on va, où notre avenir est mal dessiné, où qui plus est, on n'a plus confiance envers qui que ce soit depuis le sang contaminé, depuis depuis Tchernobyl, et même depuis la surréaction des États pour faire oublier ces événements malheureux, hein, c'est le H1N1, c'est la grippe aviaire, on a quand même frôlé le ridicule, on l'a même peut-être
pas frôlé. On a commencé par avoir peur, après on a souri, quoi.
C'était ça. C'est ça, mais voilà, on a même plus confiance envers les gens qui sont censés nous garantir des risques sur le long terme. Et ben l'époque est forcément fertile, hein, sur ce fumier poussent des graines et qui fleurissent et qui donnent deux fleurs différentes. Il y a la fleur catastrophiste, nous allons tous mourir, ça tombe bien, c'est dans la Bible, on est de culture judéo-chrétienne, donc nous avons péché, nous allons devoir être punis. L'homme est méchant, l'homme est vilain, surtout s'il est industriel ou agriculteur, donc nous allons mourir et c'est bien fait pour nous. Et en plus, nous faisons trop d'enfants. Alors là, c'est une catastrophe. Oui. Et face à ça, c'est développé une autre graine qui est la graine du scientisme, incarné par un ex-ministre, qui n'a plus de scientifique que le nom, sans doute. Et voilà, donc face à cette église catastrophique, cette catastrophe se développe l'église réformée du scientisme. Venez à moi, why perdu, la science va vous sauver, ayez confiance, la technologie va nous sauver. Derrière tout ça, il y a simplement la négation de la réalité que nous sommes dans un monde fini. Donc tout va continuer comme avant. Et ben le bon peuple, lui, qu'est-ce qu'il a entre les deux? Il est tenu d'avoir le choix. Il est tenu de faire un choix, entre l'un ou l'autre. Et ce qu'il y a de grave, c'est que des deux côtés, finalement, on contredit la science. Parce qu'on demande à la science de se plier à l'opinion dominante, qu'elle soit catastrophiste ou scientiste. Et on en est avec ce débat consternant qui va avoir lieu à l'Académie des sciences sur le réchauffement climatique, où pour la première fois en France, des scientifiques vont débattre devant l'opinion publique parce qu'une opinion minoritaire... n'ayant strictement jamais rien publié pour contredire l'opinion majoritaire, c'est basé sur quelques médias et l'opinion publique pour faire comme s'il y avait encore un doute.
Alors Frédéric, vous dites que bon, soit on arrête tout, on applique le principe de précaution, on stoppe la recherche, on attend que la nature décide, que les pays émergents nous fassent tomber notre piédestal par leur travail et eux leur foi dans la science, ou bien alors on reformule nos peurs, on réexamine pour les évaluer avec précision, c'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux à la fois de nos angoisses, un état des faits qui sont avérés, des vrais risques et des faux dangers. C'est un peu ça quand même le cœur de ce livre.
C'est ça. En fait, fondamentalement, je crois, on confond danger et risque. Hein, le danger, c'est ce qui est avéré. Le risque, c'est la probabilité que ce danger se réalise dans notre corps, dans notre âme, dans notre société, dans nos campagnes. On confond les deux parce que c'est finalement plus simple de croire ça. Hein. Ça convient vraiment très bien à finalement notre culture judéo-chrétienne. Et puis au fait que vraiment, encore une fois, on est à la fin d'une époque, on est à la fin de notre civilisation, on n'a plus aucun homme politique qui nous fait rêver, on n'a plus de lune à conquérir, et donc qu'est-ce qui nous reste? Mais il nous reste que la peur. C'est très bien la peur. La peur, c'est comme un match de foot. Les gens sont contents d'avoir peur ensemble. On discute de notre peur, on parle de notre peur. Et en plus, le gouvernement nous y incite, vu qu'au moindre chien qui mord une petite, tout de suite, voilà, ce sont des hordes de loups qui vont déferler et nous mordre. Et au premier policier municipal qui se fait tuer, forcément, on va voir, c'est le signe que la société est à feu et à sang. Voilà.
Donc en même temps, on peut aussi se dire qu'on a peut-être quand même un autre creuset commun que la peur aujourd'hui, qu'on essaie de trouver une espèce de pédagogie de l'action dont vous parlez aussi très bien dans votre bouquin.
Enfin, la peur, tout dépend de la définition qu'on lui donne. La peur, c'est un sentiment que nous a donné l'évolution, finalement. Hein, la peur, c'est un réflexe de survie qui nous fait dire, attention, là, il y a peut-être un danger, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis à trouver une échappatoire, à contourner le mur, ou à passer au-dessus, ou à le détruire. La peur, en aucun cas, ça devrait nous tétaniser. Or là, ça nous tétanise. Ça nous tétanise. Et on le voit surtout, les OGM, les cellules souches, on le voit sur le nucléaire, on le voit surtout, parce que le danger est phénoménal, on arrête tout.
Alors, on va donc, vous voyez qu'on a de la matière hein, aujourd'hui, donc on va pas balayer tous les champs. Dans quelques instants, vous allez pouvoir réagir parce que Jean-Marie Pelt va nous parler des nanotechnologies. Et puis, on va donc débuter en musique. Et là, oh bon non, faut pas avoir peur, c'est Jack Johnson, au contraire, c'est très bien ça. Of everything. Que les nanotechnologies. Jean-Marie Pelde, bonjour.
Bonjour Denis.
Oui, ça c'est
bonjour
bon.
À tous. Oui.
D'accord. Parce que quand on parle quand même de nanotechnologie, oui. On est dans le milliardième de mètre.
Le milliardième de mètre, voilà, oui, absolument. C'est tout à fait ça. Alors c'est la quatrième grande vague de technologie depuis la Deuxième Guerre mondiale. La première grande vague, ça a été le nucléaire. La deuxième, ça a été les biotechnologies. Avec les OGM aujourd'hui. La troisième, c'est les technologies de l'information et de la communication. Et la quatrième, c'est les nanotechnologies. Ce qui est à remarquer, c'est que chaque vague produit des vagues. Oui, le nucléaire, c'est tous les problèmes qu'on connaît. On en reparlera d'ailleurs. Les biotechnologies, c'est les problèmes des OGM. Les technologies de l'information et de la communication, c'est qu'on ne sait plus trop s'il faut avoir confiance au portable. Donc, il y a à chaque fois des problèmes. Et la question est celle-ci. Est-ce que avec les nanotechnologies, il y aura des problèmes? Alors, les nanotechnologies, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des nanotubes, c'est-à-dire des fibres, en fait, extrêmement fines, qui rentrent... par exemple dans le corps, en médecine, et qui véhiculent des médicaments, et qui sont médicamenteuses, qui entrent dans les matériaux, qui deviennent à ce moment-là plus résistants.
Ça peut rentrer dans des raquettes de tennis, dans des soutiens-gorge aussi, dans des chaussettes pour leur éviter d'avoir des odeurs, des cadres de vélo, etc.
Dans des ordinateurs, dans des automobiles, donc il y en aura... de toute façon, un peu partout.
Parce que c'est quand même plus résistant que l'acier, hein, beaucoup
c'est,
plus.
C'est extrêmement résistant. Et on imagine aussi qu'il y en aura dans les puces, puisque maintenant, nous allons passer aux puces.
Oui.
C'est-à-dire que dans nos corps, on va implanter des puces. On pourra être identifié avec une machine et on dira, c'est Denis Chessou. Alors, pourquoi fait-on des nanotechnologies? Ben, la réponse est extrêmement simple, parce qu'on prévoit en 2015 un marché de 1000 milliards, comme disent les gens dans la télé, j'aime bien quand ils disent « il fait moins 2 à moins 4 », comme s'ils disaient « il fait moins 20 ou moins 40 ou moins 80 », et puis que ça va, par conséquent, générer des emplois. Voilà. Donc on y va. Parce qu'il faut qu'on soit compétitif, c'est très important. Alors là, tout le monde dit la même chose. Nous sommes sur un terrain ici où il n'y a pas de contestation, tout le monde dit la même chose, donc on y va, et on y va vite. Mais il y a un problème. Alors ce problème, c'est que ces microfibrilles ressemblent terriblement aux microfibres d'amiante, et qu'on a fait des essais, on a fait des tests. Eh bien, moi j'ai repéré 3 études qui ont été menées dans le monde au cours des 2 dernières années. La première montre que les nanotubes de carbone attaque la plèvre comme l'amiante, parce que ce sont des fibres longues, et ce sont des fibres très minces, beaucoup plus minces qu'un cheveu, hein, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu, très longues, qui sont cancérigènes. Bon, la deuxième étude confirme la première, ce qui est embêtant. La troisième montre le même impact sur des souris. Donc je crois qu'il faut faire très attention.
Vous ne serez pas écouté, vous le savez.
Non, je ne serai pas écouté, mais on sera... Écoutez, peut-être, mais pas entendu.
Oui,
c'est pas tout à fait la même notion. Non. Je pense à une étude qui a été menée sur le dioxyde de titane. Alors ça, c'est un produit qui fait que les produits cosmétiques sont extrêmement brillants et qui renforcent leurs propriétés anti-radicaux libres, donc qui protègent mieux du soleil quand ce sont des crèmes solaires, et des crèmes qui sont très, très claires. Alors, on a remarqué que ce dioxyde de titane, normal, n'a aucun effet toxique, mais sous forme de nanoparticules, qui sont beaucoup plus petites, alors cet dioxyde de titane, il file dans le sang et il atteint tous les organes, y compris le cerveau, par inhalation. Et il suit, semble-t-il, le trajet du nerf olfactif.
Puis Jean-Marie, il faut les recycler après ces matériaux, parce qu'ils auront de toute façon une durée de vie malgré tout limitée, même si, on le rappelle, ces fibres permettent de renforcer la solidité des produits.
Oui, absolument. Alors la question, c'est comment on va recycler ces produits? Est-ce que les nanotubes vont incommoder les ouvriers qui vont travailler à ces recyclages? Est-ce qu'on sait les recycler? Alors toutes ces questions sont encore très vagues. Quand j'ai fait le point sur cette question, j'ai été frappé des déclarations de bonne intention et du peu de choses qu'on sait. On ne sait pas, mais on y va vite. Alors évidemment, c'est novateur, c'est de l'innovation. Oui. Alors dès que vous collez le mot innovation, c'est donc c'est bien, automatiquement.
Oui. La recherche, vous êtes un fossile et l'innovation. En émettant des doutes, bien sûr.
Et moi, je suis un fossile parce que j'émets des doutes. Alors sur l'innovation, je vais dire quelque chose de très simple. Dans le domaine des énergies renouvelables, il faut de l'innovation, absolument de l'innovation. Mais dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine des nanotechnologies, tout doux, tout doux, tout doux, on ne se presse pas. On regarde d'abord les effets. Et si on a, disons, acquis, je ne veux pas dire des certitudes, on n'a jamais de certitudes, mais si on voit qu'on peut y aller, on ira. Mais on y va beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Et je crois qu'il faut qu'on soit très prudent. Parce qu'un jour, on aura un gros pépin.
Mais Dupont de Nemours, qui est vraiment au cœur de cette affaire, enfin avec d'autres, avait dit aussi au gouvernement, différents, et américains en particulier, aidez-nous, donnez-nous de l'argent pour que l'on puisse évaluer les risques sanitaires de ces nanotechnologies.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il appartient aux industriels de faire la preuve que les produits qu'ils sortent ne sont pas dangereux. C'est vraiment à eux qu'appartient la charge de la preuve.
C'est d'ailleurs effectivement le principe de Reach.
C'est le principe de Reach, c'est tout à fait logique. Alors, il appartient aussi au gouvernement de mener des enquêtes et des études parallèles, et ensuite on confronte les résultats. Et là, on a des points de vue qui peuvent être convergents. Si les points de vue sont convergents, on a un minimum de sécurité. S'ils ne sont pas convergents, il faut continuer à creuser. C'est la marge de la science. La science ne dit pas la vérité éternelle révélée de toute éternité. La science, elle évolue continuellement. Mais nanotechnologie, tout doux.
Et bien sur ces bonnes nouvelles, merci beaucoup Jean-Marie Pelt. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Alors Frédéric Denis, vous ne pouvez pas répondre à Jean-Marie parce qu'il n'est pas dans ce studio. Mais comme dans la fabrique de nos peurs, ben vous parlez aussi des nanotechnologies. Petite réaction de votre part, ou complément d'information, on va dire.
Alors juste une seconde. D'abord, sur la policière, je n'ai pas voulu minimiser ce qui lui est arrivé. Hein. Je voulais simplement dénoncer tout à l'heure. On ne sait jamais, ça peut être mal compris.
Non,
je voulais simplement dénoncer l'utilisation que les pouvoirs publics allaient en faire ou pourraient en faire. Voilà. Les nanotechnologies, il faut bien comprendre que par essence, par leur taille, hein, on est au milliardième de mètre, les propriétés classiques des matériaux, dès que ces matériaux arrivent donc à ce milliardième de mètre, sous cette échelle, ces propriétés habituelles sont démultipliées. Parce qu'à cette échelle, la surface est plus importante que le volume, donc toutes les réactions chimiques, hein, l'interaction entre ces matériaux et leur environnement se font au niveau de la surface. Et à cette échelle-là, c'est la surface qui prime. Donc tout ce qu'on voit dans notre chimie, notre industrie habituelle, est totalement démultiplié. D'où l'intérêt de ces produits. Mais évidemment, d'où le danger. Parce que ces produits, Jean-Marie l'a dit, de par leur taille, peuvent aller tutoyer le noyau, voire l'ADN des cellules. On le sait. Ces noyaux, comme les polluants invisibles, se jouent, ces particules se jouent de toutes les barrières qui protègent le cerveau ou l'embryon. Hein. Voilà, donc ces particules arrivent à peu près dans toutes les cellules, quel que soit l'endroit où elles ont été inhalées. Et de par ces effets de surface, forcément, on se doute qu'elles vont pouvoir interagir de façon démesurée avec leur environnement qui se trouvera être, là, l'environnement cellulaire.
Le point commun de toutes ces peurs que vous déployez dans cette fabrique de nos peurs, dans cet ouvrage, c'est le côté invisible, en fait.
Voilà, les nanos, on ne sait pas ce que c'est invisible. Comme les radiations nucléaires, comme finalement les gènes modifiés dans les OGM, comme les polluants, hein, les pesticides, on ne sait pas ce que c'est. On ne les voit pas, on a du mal à les appréhender. Donc on ne les voit pas, je ne vois rien, je m'en fiche. Au contraire, je ne les vois pas, donc c'est un peu comme le cancer. Hein. Finalement, derrière toutes ces peurs, dont les nanotechnologies, il y a la peur d'être attaqué de l'intérieur. Il y a la peur d'une cinquième colonne, vous voyez. Avant, si vous voulez, il y a 20 ans, on avait un ennemi. C'était l'URSS. On n'a plus d'ennemis, mais je suis persuadé que ça joue sur nos peurs quotidiennes. On n'a plus d'ennemis, on a besoin de s'en reconstituer. Ouais. Et ces ennemis, eh ben, caricaturalement, c'est la métastase. Donc les nanos, les OGM d'un côté, les cellules souches, tout ça, ça va nous attaquer, ça va nous détruire. Et donc il faut en avoir peur, donc il faut tout arrêter. Et les nanotechnologies, effectivement, le danger est formidable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut cesser de chercher. Au contraire, il faut continuer de chercher, au moins pour établir les risques. Mais je note quand même que les nanotechnologies, si je ne me trompe pas, c'est le premier domaine, c'est la première fois dans l'histoire de l'industrie de la technologie qu'on met en place tout de suite une toxicologie.
D'accord.
Une toxicologie.
Oui, alors,
on a commencé à étudier la toxicologie tout de suite, même si c'est imparfait, parce que finalement, on ne sait pas vraiment ce que deviennent ces particules. Mmh. Et là, on peut faire le lien avec les OGM, on a un problème de métrologie. On a un problème
d'avoir les outils pour
les repérer et pour les tracer. Vous voyez, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter. Moi, si vous voulez, je termine sur les nanotechnologies. Ce que je reproche aux anti-nanotechnologies un peu excessifs, c'est qu'ils plaquent sur les nanotechnologies actuelles, qui sont balbutiantes, les peurs qu'on pourrait avoir sur les nanotechnologies du futur, celles qu'on voit dans les livres de Drexler, dans les livres de Crichton, dans Minority Report. Donc, des nanotechnologies qui viendraient nous transformer en transhumains, qui viendraient nous contrôler de l'intérieur, comme si nos gouvernements avaient besoin de nanotechnologies pour nous contrôler. Donc, on plaque sur la science de la fiction et on joint les deux. Et parce que ces nanotechnologies du futur seront incommensurablement plus dangereuses que tout ce qu'on a inventé aujourd'hui, celles d'aujourd'hui, il faut les rejeter parce qu'elles sont extrêmement dangereuses. Et ça, c'est grave.
Oui.
On n'est plus du tout dans le réalisme. Tout simplement.
Non, mais c'est tout à fait intéressant parce que au contraire, vous partez bien sur la science et quand elle est dépossédée de certaines choses, bah, vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous le dites bien dans cet ouvrage. Donc on va poursuivre ce voyage. Françoise Hardy, ça vous va?
Oui, c'est très bien.
J'espère que ça vous va, surtout à vous qui nous écoutez. Bah, oui.
Mauvaise nouvelle, catastrophe à la chaîne, où l'on voudrait disparaître, mettre un terme à cette vie de labeur et de peine, sans plus de remords qu'un vieux cheval mort. Mais que tu tombes ou non, on chandonne, pas plus de vaincu que de vainqueur. Avec des
poison.
Oui.
Erin, tout ça est forcément différent de ce qu'on a dans notre eau. Notre eau, elle n'a rien. Les gens de la PGE me l'ont dit, ils étaient là, dans la cuisine, et ils m'ont dit qu'elle était très bien.
Je sais, mais le toxicologue qui m'a renseigné là-dessus, il m'a donné une liste de problèmes pouvant venir d'une exposition soutenue au chrome hexavalent. Et toutes vos maladies sont sur cette liste.
Notre médecin nous a dit autre chose. Il nous a dit qu'il n'y avait rien de commun entre tout ça et nous.
Mais la PGE a payé le médecin, non?
C'est formidable. Dès qu'on entend Julia Roberts, on n'a pas peur. Tout se passe très bien. Voilà, c'était un extrait de Erin Brockovich. Vous êtes bien sur France Inter, CO2 Mon Amour. Donc on poursuit ce voyage. Patrick nous envoie un petit mail en disant, bah tenez, dans la catégorie manipulation des peurs, Pelt, aujourd'hui, on a un très bon exemple. Les nouvelles technologies sont à manipuler avec précaution, on est bien d'accord, et à évaluer avec d'infinies précautions. J'attends toujours qu'il donne une méthode qui donnera une réponse définitive permettant d'avancer. Il ajoute, les autres technologies sont bonnes à développer, entre parenthèses éolien et solaire, donc on peut avancer sans évaluation fine. Les produits phytosanitaires bio ne sont plus à évaluer puisqu'ils sont bio, on peut avancer, il n'y a pas de risque, voilà. Donc bon, mais c'est bien parce qu'on est quand même là aussi un petit peu au cœur de ce débat. Alors si on clique sur la case de chimie, vous avez, alors je tiens à préciser qu'il y a quand même aussi un style hein, de Frédéric Danhé, qui a aussi un certain recul, un certain humour dans cet ouvrage, voilà. Non mais c'est pas plombant non plus. Bon, c'était aux éditions, donc François Bourin, je ne l'avais pas dit, donc La Fabrique de nos peurs. Chapitre intitulé « La chimie m'a tué ». Bon, alors là, on y va dessus. On ne va pas développer tous les liens entre chimie, santé, etc. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire quand même à travers ce chapitre ?
Alors qu'on a de bonnes raisons d'avoir peur avec la chimie, parce que, si vous voulez, je vais un peu caricaturer les choses. Notre espèce elle a 400 000 ans, elle a réagi, son métabolisme est fait pour réagir à certaines molécules naturelles, et puis tout d'un coup, depuis 50 ans, lui a demandé de casser, de bricoler des molécules totalement artificielles, très solides. Et ben voilà, ces molécules se sont accumulées dans tous les écosystèmes, se transmettent d'une génération à l'autre, restent dans nos cellules adipeuses. Et on voit que dans la nature, c'est Rachel Carlson qui a démontré ça avant moi, hein, on voit que dans
Le
printemps silencieux, un ouvrage fondateur dans l'histoire de l'écologie, fondamental, on voit que bah, dans la nature, il y a des choses qui se font, il y a des animaux qui ont du mal à se reproduire, il y a des animaux qui font des cancers qui ne devraient pas en faire. On voit qu'en laboratoire, tout cela est avéré, et on se dit pourquoi pas nous. Et on voit en même temps que... Bah, il y a des maladies qui se développent, que ce soit les allergies, l'obésité, le diabète, et puis les cancers qui sont pas seulement liés à la vieillesse, parce qu'ils touchent aussi de plus en plus de jeunes, des cancers rares qui le sont un peu moins, ainsi que de malformations congénitales. Donc oui, sur les pollutions, on a de bonnes raisons d'avoir peur, mais je termine, Denis.
Oui.
Attention, c'est pas les méchants industriels, c'est pas les méchants agriculteurs. L'essentiel de notre contamination se fait chez nous.
Chez nous.
Se fait chez nous.
Avec ce que nous respirons, entre autres.
Voilà, on ne veut pas être contaminé, très bien. Est-ce qu'on a besoin d'une vingtaine de produits détergents dans la maison ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un anti-limace, un anti-machin, un anti-truc dans le jardin ? Non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la peinture glycérophtalique, d'acheter des meubles pour enfants en minium bourrés de formaldéhyde ? Est-ce qu'on a peur d'avoir... Est-ce qu'on a, d'avoir du parquet en plastique bourré de colle et de solvant ? Non, l'essentiel de la contamination se fait à la maison. Y compris pour la dioxine, dès lors qu'on fait cramer sur un barbecue, sur du charbon de bois non épuré, un saumon venu d'élevage intensif. Ce que je veux dire, je caricature un peu, mais l'essentiel de la contamination se fait à la maison. Et cette contamination est d'autant plus forte que nous n'ouvrons plus nos fenêtres. On a peur, on a tellement peur de tout qu'on se replie sur soi. L'air ne circule plus dans les maisons et il va circuler de moins en moins dans la mesure où on nous demande d'économiser l'énergie.
Voilà. Alors, voilà. Non, mais c'est vrai que vous dédouanez pas le reste, simplement vous le remettez en perspective, hein, je le dis bien. C'est-à-dire qu'il y a les peurs avérées, il y a les peurs que l'on ressent, et puis il y a quand même quelques réalités. Puis vous rappelez aussi que l'homme, donc dépossédé de son portable, de sa carte de fidélité, je sais pas, moi, bricot, machin, c'est un mammifère comme un autre. Ce qui veut dire que notre système immunitaire, nerveux et hormonal est à peu près le même chez tous les mammifères.
Donc, oui, c'est le même. J'attire simplement l'attention sur le fait, on parle d'espérance de vie là dans le débat sur la retraite. Notre espérance de vie, elle a augmenté. Pourquoi ? Qui sont les vieux d'aujourd'hui ? Ce sont des personnes qui sont nées avant la chimisation de la société. Moi, je suis convaincu, comme Jean-François qui est ici, que ma génération, celle à laquelle je fais partie, aura une espérance de vie plus faible, parce que dès la présence dans le ventre de ma chère mère, j'ai été contaminé par des produits pour lesquels notre physiologie n'est pas adaptée.
Alors, vous ne condamnez pas non plus la chimie comme ça en vrac. Une fois de plus, c'est pas du tout un bouquin qui est manichéen. En rappelant aussi que sans cette chimie, bah, on aurait quand même déjà loupé quelques révolutions industrielles aussi intéressantes,
évidemment.
Comme celle de la vapeur, comme celle de l'électricité, qu'il y a évidemment des tas de médicaments qui ne seraient pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi...
Et puis, il ne faut quand même pas oublier que la chimisation, entre guillemets, de la société, c'est la société qui l'a voulu. Il ne faut quand même pas oublier qu'au lendemain de la guerre, on a tout tout accéléré parce qu'on en avait ras-le-bol du monde d'avant, qu'on en avait ras-le-bol et des cartes de rationnement. Et puis, moi, je me souviens de ma grand-mère qui était très contente de ne plus avoir à frotter son parquet avec du savon noir. Mmh. Et ben donc, elle a pris des produits détersifs.
Alors, vous avez cité Jean-François. D'ailleurs, Jean-François, il y a un professeur en toxicologie qui s'appelle donc Jean-François Narbonne, qui est venu, avec nous, pas complètement par hasard, mais je lui ai dit, est-ce que vous pouvez intervenir par téléphone et puis venez voir son fils à Paris. Ben alors, venez, ben bien sûr. Je tiens à dire que vous serez invité cet été dans Tout s'explique. Donc, on parlera davantage de votre livre qui s'appelle 100% donc toxique, joie, bonheur, aux éditions Thierry Soucard. Juste sur le chapitre chimie, qu'est-ce qui est avéré aujourd'hui? Quelles sont les bonnes raisons d'avoir peur? Et celles, enfin, de se méfier avec quand même quelques solutions à la clé. Et puis, qu'est-ce qui relève un peu du fantasme?
Eh bien, le problème, c'est d'avoir conscience de la réalité des expositions. Et c'est d'ailleurs le rôle des agences sanitaires qui sont aussi décriées aujourd'hui par nos politiques, de donner la hiérarchie des risques. Mmh. Et parce que dans la gradation qu'on a donnée tout à l'heure, donc il y a bien les dangers. Donc les dangers, c'est la potentialité toxique des substances. Les risques, c'est la probabilité d'avoir des effets santé. Et puis il y a l'impact. L'impact, c'est ce que mesure l'épidémiologie, c'est-à-dire le nombre de morts après la bataille, le nombre de morts de l'amiante ou le nombre de morts sur les routes tous les ans.
Le problème, c'est que c'est souvent après la bataille, ça se déclenche.
Ben, on le voit qu'après coup. Alors le gros problème aujourd'hui, c'est d'anticiper ces impacts et donc de mieux évaluer les risques en améliorant les techniques. Or, les risques tels que c'est pratiqué classiquement et que c'est figé dans la réglementation internationale qui réglemente les échanges entre les pays sont basés sur des tests, grosso modo, des années 50. C'est ce qu'on appelle les doses journalières admissibles, un certain nombre de valeurs limites qui sont déterminées de façon mondiale. Et l'idée, c'est de profiter des 30 ans d'évolution des connaissances dans la toxicologie moléculaire, dans la biologie moléculaire, dans la connaissance des mécanismes de ces maladies, de façon à mieux anticiper ces maladies, à mieux évaluer les risques, c'est-à-dire de faire enfin de l'épidémiologie moléculaire ce que commencent à faire des gens comme Denis Mirou, ce que commence à faire l'Institut de veille sanitaire qui a été créé, donc justement, parce qu'il faut savoir qu'avant l'an 2000, il n'y avait aucun organisme en France qui était chargé de surveiller la santé des Français, ce qui est totalement, je dirais, inimaginable. Donc aujourd'hui, on commence à développer, avec les agences, on commence à savoir quelles sont les expositions réelles aux différents produits chimiques et sortir, je dirais, du fantasme. Par exemple, les dosages nous donnent, une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est les médicaments. Hein. Dans certaines rivières, on a plus de résidus médicamenteux que de résidus de pesticides. Donc, moi, je veux bien que...
J'ai vu ça, c'est le cas de la Baïse dans le Gers, me semble-t-il.
Voilà, donc c'est notre laboratoire qui a fait les études dans cette rivière, qui est une rivière qui irrigue une zone agricole et pour laquelle il n'y a pas de grande métropole susceptible, je dirais, d'avoir une pression anthropique très forte. Eh bien, c'est le cas, il y a plus de résidus de médicaments que de résidus de pesticides. Donc, j'entends des messages au Grenelle, réduire de 50% les pesticides, je n'entends pas de message réduire de 50% les médicaments. Or, on sait que la France consomme trois fois plus de médicaments que l'Allemagne et qu'elle ne se porte pas forcément mieux. Par contre, le trou de la sécu, lui, il est énorme.
Voilà, donc cet homme n'est pas politiquement correct, on l'a bien compris. Frédéric Noé non plus, donc vous êtes tout à fait intéressant. Aujourd'hui, Frédéric Noé, donc cette affaire de chimie, bon, bien sûr qu'il faut, on va dire, il faut un chiffre pour établir des preuves. Et il y a toujours ce lien de causalité qui est linéaire. Et donc vous dites, en fait, l'absence de la preuve du risque est la preuve de l'absence du risque. Et c'est aussi simple que ça.
Mais on est un pays de cartésien, on est le pays d'Auguste Comte, de la rationalité absolue. On est un pays dont la totalité des dirigeants des entreprises publiques et privées sont issus de 6 écoles d'ingénieurs. On est un pays où la décision est aux mains d'ingénieurs pour qui le chiffre a une valeur absolue. Point. On ne parle pas d'indicateur, on parle de valeur absolue. Et encore aujourd'hui avec le carbone. Le carbone est un indicateur, il devient une valeur absolue. Donc c'est pour ça qu'on a autant dénié tout lien entre santé et environnement en France, hein, pas qu'en France, mais surtout en France, parce qu'on nous demandait le chiffre, le chiffre, le chiffre. Mmh. L'amiante, c'était caricatural, même s'il y avait beaucoup de politique derrière. Il y en a encore, dont je crois un ancien ministre, qui contredisent la carcinogénicité de l'amiante, parce qu'il n'y a pas de preuve absolue. Oui. Mais il n'y en aura jamais. Ces produits-là, vous les prenez, vous êtes stagiaire dans une usine en 1960, vous manipulez du trichloréthylène, vous manipulez du dicofol, un insecticide quelconque, vous n'aurez éventuellement un cancer que 30 ans après. Comment voulez-vous faire la preuve? Donc, dans ce domaine, et ça, la directive REACH, finalement, ça a été aussi une révolution là-dessus, parce que en justice, elle introduit la notion, d'intuition, finalement, de présomption.
Ça, c'est quand même un progrès. Hein.
C'est un progrès énorme.
Donc maintenant, c'est aux industriels de prouver...
De faire la preuve que l'ouvrier qui porte plainte a tort et on accorde foi à une simple présomption, certes argumentée. C'est quand même une révolution, mais pour notre esprit cartésien, c'est difficile. On attend, et on le voit encore avec le réchauffement climatique, une preuve absolue.
Alors, vous passez en revue donc l'un et l'autre, aussi bien Jean-François Narbonne dans 100% toxique et puis vous dans la fabrique de nos peurs, pas mal de produits, évidemment qu'on ne va pas tous les passer en revue, on vous rassure. Vous avez parlé de Denis Mirou, on va parler de la qualité de l'air dans quelques instants, ce sera après Léonard Cohen.
C'est beau. Ils veulent détruire ça. Il faut supprimer la peine de mort. Sauf contre les architectes.
Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du style.
Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. Ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable.
C'est au de mon amour, avec Denis Chessou.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, hold my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. And if you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or only wanna take me for a ride. Well, you know you can. I'm your man. The moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. Oh, I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knees. Oh, I'd crawl to you, baby, and I'd hold your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Je peux se manger. cochonnerie, sans odeur et sans goût. T'as rien connu d'autre, bien sûr. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre?
On se croirait dans un four. On crève à force de transpirer.
Ben voilà, hein, je vois bonheur, c'est oui un extrait de Soleil Vert. Oui, je sais, ça remonte pas le moral. À la fin, ils mangent les vieux. Enfin, c'est une horreur totale. Mais voilà, c'était quand même aussi tout à fait intéressant. Ça fait quand même pas mal de foin à cette époque-là. Figurez-vous, ce qui ne va pas tellement vous. On a un petit bel intéressant. Philippe Olivier nous dit que la pollution est principalement concentrée dans nos maisons. Oui, ce ne sont pas les méchants industriels qui en sont responsables. Il nous dit, bon voyons, il est évident que ce ne sont pas eux qui nous fabriquent et nous vendent les produits ménagers. 4 ou 5 petits points derrière. Voilà.
Oui, enfin, c'est pas les industriels qui vous les impose, c'est bien le consommateur qui achète. Si le consommateur n'achète pas ses produits, il diminue son exposition.
Alors on va nous dire qu'on ne regarde pas assez les petites étiquettes, etc., parce que la publicité quand même fait son rôle.
Absolument.
Elle n'est pas là pour nous vendre du danger.
Là où notre auditeur a raison, c'est qu'il est très difficile de se faire une opinion, mais je l'invite quand même, dans une surface de bricolage, à regarder au dos des pots de peinture, des pots de vitrificateurs de parquet, par exemple. Il y a marqué la réglementation européenne et le taux de composés organiques volatiles.
Voilà.
Par rapport à la réglementation, elle peut donc faire son choix. Simplement, il faut le savoir, ça n'est pas dit et c'est pas toujours très simple. Il y a une culture de la signalétique qui est pas partagée par tout le monde. Mais encore une fois, on est libre d'acheter et surtout de ne pas acheter comme on est libre de ne pas voter. Nous avons 2 pouvoirs dans les mains.
Nous avons aussi 1 nez et 2 poumons, donc quelques bonnes raisons de s'inquiéter quand même de la qualité de l'air. C'est pour ça que nous rejoignons par téléphone Denis Smirou, qui est professeur à la faculté de médecine de Nancy et à l'école des hautes études en santé publique. Denis Smirou, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Ah, vous connaissez évidemment Jean-François Narbonne aussi, qui est autour de la table. Voilà, il est donc là aussi avec nous. Faisons un petit peu le point, si vous voulez, sur la qualité de l'air. Parce que là aussi, qu'est-ce qu'il y a comme peur? Qu'est-ce qui est avéré? Est-ce qu'il y a eu des gains? Dites-nous un petit peu où on en est, s'il vous plaît, aujourd'hui.
Ah là, pour le coup, ce sont des choses que l'on connaît beaucoup mieux, parce que grâce notamment à la loi de décembre 96 qui a installé des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air dans toutes nos agglomérations urbaines, on peut surveiller grâce à 2000 capteurs quotidiennement, continuellement, la qualité de l'air. Alors, vous savez que je suis bien sûr provincial, mais je vais commencer par la situation de l'agglomération parisienne. C'est quand même 20% de la population. Et si la situation avait considérablement progressé entre les années, je dirais, 80-90, depuis en gros les années 2000, 10 ans, c'est beaucoup plus stagnant. C'est beaucoup plus stagnant pour ce qui concerne, alors nous sommes préoccupés du point de vue sanitaire, notamment par les particules fines, l'ozone. Ce sont des polluants qui stagnent, que ce soit dans les zones dites de fond urbain à l'écart des trafics, mais également au voisinage immédiat du trafic automobile. L'ozone, lui, en zone périurbaine, disons sous le vent des grandes masses d'air polluées des sites urbains, a plutôt tendance à augmenter. Ce qui est observé dans l'agglomération parisienne est en gros ce qu'on retrouve au niveau national, et là il y a des statistiques qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Environnement, qui nous montrent que pour l'ozone, ça se dégrade malgré des variations selon la météorologie. Pour les particules, ça reste étal, autrement dit pas très favorable, ainsi que pour les oxydes d'azote qui sont le meilleur indicateur qu'on puisse rencontrer des sources automobiles.
Alors rappelez-nous simplement, Denis Smirou, en ce qui concerne donc ces particules fines. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès quand même en matière de pollution automobile. Bon, on a retiré le plomb, entre autres choses, mais on est les champions du moteur diesel quand même en France.
Oui, tout à fait. Et le renouvellement du parc est extrêmement long, comme on le sait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les achète, ils vont vivre 7 ans, 10 ans, 12 ans, donc le renouvellement est extrêmement lent, ainsi que les nouveaux véhicules qui sont équipés de filtres à particules n'auront leur impact que dans très 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 longtemps, c'est pourquoi cette situation est stagnante. Or, on est encore capable aujourd'hui de mesurer l'impact pour la santé de cette pollution-là. Mmh. Et tenez-vous bien, imaginez qu'il y a un an a été publiée une remarquable étude, certes conduite aux États-Unis, montrant sur une période de 20 ans, entre 80 et 2000, l'association qu'il y a entre la baisse de la pollution atmosphérique, par les mesures en effet de contrôle industriel et d'amélioration du trafic automobile, d'une part, et puis l'évolution de l'espérance de vie. Eh bien, cette étude a démontré que lorsque parce que en moyenne diminue de 15 microgrammes mètre cube dans l'air les teneurs en particules fines, l'espérance de vie progressait de 1 an. C'est une démonstration extraordinaire car elle nous montre, et je reprends en fait ce que votre invité disait tout à l'heure, c'est qu'une part encore substantielle de l'espérance de vie qu'on observe aujourd'hui dans nos pays les plus avancés est associée au progrès occasionné sur le plan des pollutions environnementales et ici en particulier la pollution atmosphérique. Mais ça c'était vrai jusqu'à la fin des années 90, comme je l'ai dit, la situation aujourd'hui stagne et il faut renouveler d'efforts pour poursuivre cette amélioration.
En ce qui concerne donc le trafic automobile, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop focalisé, on va dire, sur le fameux CO2, parce que là, évidemment, le diesel va gagner de ce côté-là, mais à côté de ça, va relarguer beaucoup plus de particules fines. Alors, il n'y a pas que le domaine automobile, hein, il y a aussi quand même d'autres formes de combustion, mais quand même.
Oui, vous avez raison de souligner qu'en fait, il y a deux débats. Il y a ce dont on est en train de parler, la pollution atmosphérique, celle qu'on entend, c'est celle qui a des effets pour la santé, des gens qui vont respirer, les enfants, des crises d'asthme, le cancer du poumon, etc. Et puis il y a le CO2 qui sont émis également, non seulement par les véhicules, bien entendu, mais par les combustions industrielles, le chauffage résidentiel, avec leur impact sur le principal gaz à effet de serre, l'impact sur le changement climatique. Je pense qu'il faut bien comprendre que les mesures de contrôle des émissions, je dirais, industrielles, trafic automobile et chauffage résidentiel, qui vont réduire les pollutions dangereuses pour la santé, sont également celles qui vont aussi contribuer à réduire les émissions des gaz à effet de serre. Mais pas forcément toujours. Il faut agir de manière intelligente. Ce que votre invité disait tout à l'heure au sujet de l'environnement intérieur, c'est-à-dire dans nos logements, c'est là que l'air est de plus mauvaise qualité, malgré ce qu'on en pense, parce que nous vivons dans des espaces trop confinés, eh bien, il faut faire attention à ce que les efforts louables, légitimes, pour réduire les consommations énergétiques afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre n'aboutissent pas à ce qu'on soit dans des enclos fermés, confinés, qui aboutissent à une concentration des polluants dans l'air intérieur. Il faut faire très attention à cela.
Merci à vous, Denis Spirou, donc, pour ce point aujourd'hui sur la qualité de l'air. Frédéric Danhé, donc, sur ces thèmes-là, qu'est-ce que vous voyez aussi donc, évoluer de manière positive quand même ?
Bah, y a quand même la prise en compte des pouvoirs publics, quoi qu'on en dise. Alors, le Grenelle n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est dans notre monarchie. Hein, c'était des états généraux qu'on a réunis pour donner des symboles, pour délivrer des symboles. Le symbole, ça a été, oui, effectivement, il y a des soucis. C'est pas pour autant qu'on va aller de l'avant, mais on pourra plus revenir en arrière.
Quand même le logement, qui a quand même des oui. points qui ont sacrément avancé.
Il y a beaucoup de points, mais même sur la pollution, c'est quand même... Je ne vais pas dire que c'est mieux qu'avant, mais les choses ont quand même évolué dans le bon sens. On ne fait plus comme on faisait avant. On se permet plus de polluer comme on polluait avant, oui. D'une façon générale. Et puis, quoi qu'on en dise sur les nanotechnologies, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, on fait gaffe dès le départ. Même si on n'a pas les outils, même si le danger est énorme, on fait gaffe. Avant, on s'en fichait royalement. Oui. On s'en fichait royalement. Il n'y avait pas d'études. Regardez, l'exemple est peut-être, enfin, vaut ce qu'il vaut, mais au début de la radioactivité, on ne s'est pas inquiété des désordres pour la santé. On a vu ce que ça a donné pour les femmes qui se sont mis du rouge à lèvres au radium, hein, parce qu'il y a une mode du rouge à lèvres au radium. Là, on est au début d'une révolution industrielle avec les nanotechnologies. On s'inquiète quand même, quoi qu'on en dise, de la toxicité. Il n'y a jamais eu autant d'agents sanitaires, d'études, de gens formés là-dessus. Il y a quand même un mieux.
En ce qui concerne donc le nucléaire et la radioactivité, là aussi, vous en parlez un petit peu différemment d'autres personnes qui sont parfois tranchées. On est pour, on est contre, c'est on, c'est off, etc. Bon, d'abord, vous rappelez que s'il y a eu le principe de précaution, bah, peut-être que Marie Curie n'aurait pas été prix Nobel. Et puis, derrière tout cela, il y a quand même aussi, pour vous, la peur que vous avez, c'est ça concerne l'arrogance. L'arrogance peut-être des gens qui dirigent cette affaire-là, peut-être plus que les problèmes qui peuvent éventuellement survenir.
Moi, le nucléaire me fait peur parce que personne ne peut en débattre, parce que tout est secret. Il n'y a jamais eu de débat au Parlement sur le nucléaire. Jamais. C'est là où on voit qu'on est une démocratie un peu
virtuelle. Sur les déchets, il y a quand même des choses qui sont passées.
Mais sur la politique nucléaire, sur qui fait quoi, sur qui contrôle qui, essayer d'avoir des notes sur les accidents dans les centrales nucléaires, essayer de les obtenir, c'est une affaire, c'est la raison d'État, c'est une affaire militaire, parce qu'il en va l'indépendance nucléaire de la France. Moi, ce qui me fait peur, c'est que cet arrogant, justement, peut nous cacher des petits problèmes qu'on n'aurait pas vus, et cette arrogance... nous cache une dérive du nucléaire vers ce qui massacre nos sociétés, vers la rentabilité. EDF et Areva On le voit maintenant que les centrales nucléaires n'ont pas vraiment investi sur le parc français, croyant que ça allait continuer comme ça. On se retrouve avec des centrales vieilles qui vont nécessiter beaucoup d'investissements. Mmh. Et ces braves gens préféraient investir ailleurs pour gagner de l'argent, en particulier EDF. Moi, le nucléaire me fait peur si le nucléaire n'entretient pas son parc, si le nucléaire ne dépense pas de l'argent pour mesurer ce qu'il fait. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Le danger est énorme, mais le risque pour l'instant est très faible. Mais ça, ça risque de changer si le nucléaire, l'industrie nucléaire, le lobby du nucléaire, par arrogance, cesse de vouloir simplement se pencher sur les petits problèmes.
Alors là, il est 14h56. Oui. J'ai envie de vraiment un petit focus sur les OGM. Alors bon, vous écrivez, ce qui m'intéresse, c'est la fin. Bon, une vie fabriquée et brevetée n'a d'autre but que de faire gagner de l'argent à une minorité d'actionnaires sans que le commun des mortels en constate le moindre bénéfice. Bon, là vous passez, je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on connaît aujourd'hui en France. Mais au-delà de ça, vous dites, il ne faut quand même pas non plus insulter l'avenir avec les OGM. Et ça, c'est intéressant que vous puissiez un petit peu développer.
Oui, les OGM, aujourd'hui, ne servent à rien, strictement à rien, si ce n'est à en mettre plein les poches à Monsanto. Ça ne sert à rien. Mais et si ça servait à quelque chose plus tard? C'est ça, ne pas insulter. Et si ça servait à... Et si demain, on arrivait à intégrer dans toutes les plantes les gènes qui permettent aux légumineuses de capter toutes seules l'azote atmosphérique? Alors, je sais bien, l'exemple est toujours caricatural, mais et si? Mais pour ça, il faut de la recherche. Il faut de la recherche publique et il faut prendre le risque d'établir les risques. Parce que si on ne le fait pas, il y a quand même des chiffres qui parlent. Si on ne le fait pas, le seul breveteur, le seul fabricant de connaissances, le seul breveteur, donc le seul qui fixera la norme, ce sera le plus gros investisseur en matière de recherche, c'est-à-dire Monsanto, qui investit 2 millions d'euros tous les 3 jours quand nous en investissons 2 millions par mois. Donc si nous cessons la recherche, comme dans d'autres domaines, si nous cessons de prendre simplement le moindre risque pour évaluer les risques, nous n'aurons plus rien à opposer à Monsanto et aux autres pays qui, eux, continuent la recherche, que ce soit sur les OGM ou les cellules souches, par exemple. Le débat est exactement le même. Et donc, on sera, dans les commissions internationales qui prétendront normer, réglementer tout ça, notre voix n'aura plus strictement aucun poids. Donc, qui fixera la norme et les règlements et qui s'imposera à tout, ce sera encore une fois le plus gros investisseur, ce sera Monsanto. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est finalement des raisons politiques. Il faut continuer la recherche. Et parce que on ne sait jamais ce qu'on va trouver. La recherche, c'est le hasard. Si on ne se permet pas d'avoir du hasard, eh ben Dieu.
Vous mettez aussi à la fin de l'ouvrage, triste époque qui accouche de la remise en cause, donc de la fabrique de connaissances, quoi. Entre la panique et le déni de la réalité, entre l'autoflagellation suicidaire et les chants de la liturgie scientiste, il doit y avoir quand même une peur raisonnable dans cette histoire.
La peur raisonnable, c'est de faire confiance aux gens qui cherchent et de leur foutre la paix. La science est une affaire autonome. Et la société n'a pas à dire à un chercheur ce qu'il doit faire. La société a à s'interroger sur ce qu'il peut faire de la connaissance qui a été fabriquée. Et là, c'est très grave. C'est très grave parce que je crois que c'est la première fois depuis quelques siècles qu'on remet en cause ça. On est vraiment une société paumée. On est vraiment une société paumée, mais les pays émergents, eux, s'en fichent. Eux, ils continuent à chercher.
Merci beaucoup, Frédéric Danhé. La fabrique de nos peurs, donc aux éditions François Bourin. Et puis Jean-François Narbonne, que l'on retrouvera au mois de juillet. 100% toxique aux éditions Thierry Soucard.
Merci.